Chapitre 10. Six semaines après les événements que nous venons de raconter, Max et Marguerite étaient mariés. Dès le soir de leurs noces, ils partirent pour l'Italie. Ils voyagèrent 5 mois. Marguerite Verdier avait acheté la charmante villa Bon Abri que l'ex-madame Bosson possédait à Marly. La jeune femme revient, heureuse de revivre chez elle, d'autant plus qu'une promesse de maternité lui rendait plus grande la joie du retour. « Pourvu que Max y plaise, » songeait-elle. Depuis 5 mois, cette pensée « plaire à Max » était le mobile de toutes ses actions. Très modeste, vraiment ignorante de sa supériorité et de sa beauté, elle se figurait sincèrement qu'en raison de son âge, c'était à elle de faire toutes les avances et toutes les concessions. Max laissait aimer. Pour l'instant, cela suffisait à la jeune femme. Mais elle comptait que ses efforts ne seraient pas vains et que la bonne petite existence qu'elle voulait faire à ce mari chéri le rendrait plus gai, plus ouvert, plus tendre. Max, de son côté, était toujours tiraillé entre 1000 sentiments complexes qui l'empêchaient de jouir du bonheur qu'il avait sous la main. Persuadé qu'il ne pouvait pas aimer sa femme, vers qui il était cependant de plus en plus attiré, il était toujours hésitant, gêné, maladroit. Et ce fut dans ces dispositions peu favorables à une bonne entente que nos jeunes gens débutèrent dans la vie conjugale. 3 jours après leur arrivée, Rémy Boisléger débarquait à Marly dans la matinée et sonnait vigoureusement à la porte du Bon Abri. Max, qui finissait à peine sa toilette, sortit de sa chambre précipitamment en entendant la voix de son ami qui parlementait avec la femme du jardinier. « Cher vieux camarade, s'écria-t-il, quel bonheur de te voir. C'est gentil d'être venu tout de suite. 5 mois qu'on ne s'est pas vu, mais c'est un bail. Et comment sais-tu que nous sommes ici ? Eh bien, d'abord, ta dernière lettre m'avait fait prévoir votre retour. Ensuite, j'ai rencontré hier ton beau-père, qui m'a annoncé que vous étiez ici installé. Alors, j'ai pensé que je pouvais venir. Ta femme ne va pas choquer le monde sans gêne. Mais non, quelle idée! Marguerite ne se choque pas comme ça. Elle n'est pas susceptible, c'est vraiment une bonne fille. Mais tant mieux, mon ami, tant mieux. Alors donc, ça va le ménage? Oui, oui, très bien, répondit laconiquement Max Duplan. Tu es heureux? Oh, très heureux. Eh bien, j'en suis bien aise pour toi, murmura Rémy. Alors, tu as oublié sagement le passé. Il est inutile par conséquent que je te donne les nouvelles de tes anciens amis. Max baissa la tête, fronça les sourcils et balbutia. Ce sont de bonnes nouvelles? Tiens, tu devines de qui je veux parler? Non, 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 ce sont de mauvaises nouvelles. Comment mauvaises? Léa? Parle donc, voyons, tu me fais bouillir. Bouillir? Quel feu pour un homme marié, sérieux, rassis. Non, Rémy, ne plaisante pas, c'est odieux. Je respecte et j'aime ma femme. Mais je ne crois pas lui faire un jure en m'inquiétant de ce qui a pu arriver à ma pauvre petite amie, raconte. Eh bien, le père Perret est mort. Mort? Il y a longtemps? 2 mois. Naturellement, il a laissé sa fille dans un dénuement complet, sans un sou, sans un parent, sans un ami. Moi, tu sais, je ne suis pas riche, je n'ai pas pu faire grand-chose pour elle. Je vais la voir de temps en temps, nous parlons de toi. Pauvre, pauvre petite, murmura Max tristement. Mais que fait-elle? Où est-elle? De quoi vit-elle? Elle a vendu les quelques bibelots qu'elle possédait, puis elle s'est installée dans une petite chambre meublée. Elle chante le soir dans une sorte de music hall. Léa? Chanteuse de café-concert? Elle est si fine, si délicate. Mais c'est affreux, Rémy. Tu n'aurais pas dû me dire cela. Oh, voilà ma vie empoisonnée. Mais que faire, que faire? Allons, ne t'affole pas. Je t'assure que Léa a l'air de prendre avec assez bien sa nouvelle existence. Seulement, je crois que tu lui ferais un grand plaisir en allant la voir. Aller la voir? Oh non, es-tu fou? Jamais. Je me le suis juré, je tiendrai ma parole. N'ai-je pas tort de vouloir m'occuper d'elle, même de loin? Voilà comme je suis ému. Regarde, ce souvenir me hante toujours. Enfin, en ce moment, ce malheur est mon excuse. Je vais te donner un peu d'argent que tu lui feras accepter comme tu pourras, sans dire qu'il vient de moi. Tu veux bien? Oui, je ferai ce que tu désires. Puis-je présenter mes hommages à ta femme avant de m'en aller? Très certainement. Je pense qu'elle est prête. Je monte chercher mon porte-monnaie. Je la préviendrai en même temps que tu es ici. Au bout d'une minute, Max revint accompagné de Marguerite, qui tendit gracieusement la main à son cousin. Soyez le bienvenu, mon cher Rémi. Vous êtes le premier visiteur pénétrant sous notre toit. Vous allez être aussi notre premier hôte. Vous restez déjeuner avec nous, c'est entendu. Oh, vous êtes bien aimable, Marguerite, mais je craindrais d'abuser. Mais non, non! Reste donc, insista Mac. Tu vas pas te faire prier, j'espère. J'ai justement besoin à Paris cet après-midi. Alors, nous partirons ensemble. Bon, soit, j'accepte. Le déjeuner se passa sans anicroche, en dépit de l'air préoccupé du maître de la maison. Jusque-là, Marguerite avait eu fort peu de sympathie pour Rémy Boisgliger. Mais il était le meilleur ami de son mari, elle devait l'accueillir sans arrière-pensée. Elle fut donc gracieuse et aimable, comme elle savait l'être. Rémy, de son côté, tenait à se faire bien voir. Aussi déploya-t-il toutes ses grâces. En sorte que ce jour-là, contrairement à ce qui se produisait généralement, il n'y eut pas entre les deux cousins un seul mot de discordant. Aussitôt après les repas, les jeunes gens se dirigèrent vers la gare et Marguerite resta seule au logis. Le cœur un peu serré, elle regarda s'éloigner son mari. Max, tout en marchant, s'entretenait vivement avec son compagnon. Comme il est content de partir, pensa la jeune femme. Allons, pas de sottises. Je ne vais pas me mettre à être stupidement jalouse pour si peu. Dirais-je, je n'ai que faire de rêvasser. Je ne manque pas d'ouvrage. Ayant pris cette sage résolution, Madame Duplan s'empressa de l'exécuter. Elle se plongea dans de gigantesques travaux, rangement de placards, organisation de penderies, placement et déplacement de meubles. Et lorsque Max rentra le soir, il trouva sa femme toute rose, toute ébouriffée, éreintée, mais enchantée de sa journée. Le jeune homme éprouvait également un sentiment de satisfaction. S'étant arraché aux instances de Rémy, qui voulait l'entraîner à un dîner du garçon, il se trouvait infiniment mieux dans sa jolie salle à manger, fraîche et gaie, en face de sa charmante femme, que dans la salle bruyante et encombrée du cercle. La vertu porte en elle-même sa récompense. Malheureusement, Nax ne sut pas être toujours aussi sage. Rémy revint plusieurs fois à la charge et, peu à peu, reprit son ancien empire sur son ami. Celui-ci sortit de plus en plus souvent et bientôt prit l'habitude de coucher au cercle quand il avait passé la soirée à Paris, sous prétexte que le retour à Marly en pleine nuit était une vraie corvée. La jeune femme souffrait cruellement de cet état de choses, mais très réservée et très fière, elle souffrait en silence, sans oser se plaindre ni provoquer une explication qui cependant eût peut-être été salutaire. De fait, Max menait un rude combat contre lui-même. Et dans cette lutte, il n'avait personne pour l'aider et le conseiller. Rémy, son seul confident, envenimait au contraire son mal comme un plaisir. Constamment, il lui parlait de Léa, de sa tristesse, de sa misère. Max tenait bon, refusait de voir son ami, mais il lui envoyait, par l'entremise de doigts légers, des secours continuels. La question d'argent n'était pas d'ailleurs sans inquiéter le jeune homme pour lui-même. Tout ignorant qu'il fût des affaires et malgré la souffrance aveugle qu'il avait en son ami, Max voyait bien que celui-ci se débattait dans de terribles difficultés. Cette histoire de mine l'inquiétait et il commençait à craindre d'être enfermé dans une catastrophe. Bref, pour toutes ces raisons, Max Duplan n'avait pas lieu d'être gai et croyait pouvoir se dispenser d'être aimable envers sa femme, pourtant irresponsable de ses ennuis. Le printemps s'avançait, on était à la fin de mai. Les bois étaient merveilleux, tout fleuri, tout embaumé. Marguerite, pour se distraire, faisait quelques courtes promenades aux environs, ou bien s'en allait passer l'après-midi chez des amis, avec sa sœur, avec Mademoiselle Varlet. Mais la promenade préférée de Marguerite était celle du buisson. Là, elle avait trouvé un véritable ami, Lucien. Celui-ci, ainsi qu'il l'avait confié à Marguerite lors de sa première visite, vivait dans un grand isolement moral, car son père et sa mère ne comprenaient pas plus l'un que l'autre les besoins de son esprit et de son cœur. Au contraire, sa nouvelle belle-sœur était une amie fidèle et idéale. Très intelligente et très fine, Marguerite comprenait admirablement les aspirations de cette belle intelligence. Et avec son cœur délicat et tendre, elle avait compati aux souffrances du pauvre disgracié. À son retour de l'Italie, Max lui-même avait été frappé de la maigreur et de la pâleur de son frère. Lorsqu'on lui en faisait la remarque, la baronne, qui ne voulait pas se rendre à la triste évidence, répondait « Oh, Lucien était très éprouvé par l'hiver rigoureux, mais avec les beaux jours, il va aller mieux. » Les beaux jours étaient arrivés, la saison était magnifique, et en dépit de la chaleur et du soleil, le petit malade continuait à décliner. Un après-midi, Marguerite fut particulièrement frappée de l'expression douloureuse de son visage. Ce jour-là, la baronne, que la santé de son fils tourmentait de plus en plus vivement, s'était montrée plus désagréable que jamais. Elle détestait sa bru toujours davantage, en raison même de l'attachement de Lucien pour elle. Aussi ne manquait-elle pas une occasion de lui dire des choses pénibles. En rentrant du buisson, Madame Duplan trouva chez son mari, qui était par hasard rentré avant elle. Elle était si triste, elle avait le cœur si gros, qu'au premier mot qu'il lui adressa, elle éclata en sanglots. « Oh, Max !» balbutia-t-elle au milieu de ses larmes. « Lucien est bien, bien malade. Il m'a fait peur aujourd'hui. » Bon, « es-tu bien sûr de ne pas exagérer ? Évidemment, l'état de mon frère, je l'ai constaté moi-même, n'est pas brillant, mais il faut pas, je crois, abandonner tout espoir. En tout cas, son père ne se doute pas du tout de la gravité de la situation, car j'ai rencontré hier au cercle et il m'a rien dit. Oh, les parents s'illusionnent toujours au sujet de leurs enfants, ils ne voient pas la vérité, mais moi, je suis sûr que le pauvre petit est perdu. « Mais tu te frappes, Marguerite, tu te frappes !» s'écria Max ému tout de même par l'émotion de sa femme. « Tu es fatiguée, nerveuse, et ça se fait voir, tout en noir. »« Non, non, je sais ce que je dis. J'en ai vu assez de ces malheureux enfants quand j'allais au dispensaire avec Mademoiselle Varlet. Crois-moi, Lucien, il a le regard de ceux qui vont mourir. » C'est pas possible, voyons, mon pauvre petit frère, articula péniblement le jeune homme en se cachant le visage dans ses mains. Chapitre 11. Puis après, un silence, et au bout de 3 jours, Max reprenait de plus belle ses habitudes de vagabondage. La jeune femme se trouva donc seule de nouveau, seule dans la chère petite maison qui devait abriter son bonheur, seule avec son chagrin et ses déceptions. Toute vaillante qu'elle était, la pauvre enfant commençait à se décourager. Max était si bizarre. Tout ce qu'on lui avait dit avant son mariage sur le compte de son fiancé lui revenait obstinément à la mémoire. Et tout cela serait-il donc vrai? Max ne l'avait-il donc épousée que pour son argent? Non, non, on ne pouvait pas encore admettre ça, c'eût été trop horrible. Max l'aimait, il était bon, honnête, affectueux. Seulement, il était comme un enfant, il ne savait pas résister aux tentations et se laissait aller à s'amuser, comme s'il était encore libre. Et tout cela, c'était la faute de Rémy. Mais c'était lui qui détachait Max de sa femme et de son foyer, lui qui l'avait entraîné dans une affaire louche, dont la marche lamentable leur causait tant de soucis, lui qui le poussait à faire un tas de dépenses inutiles. Enfin, malgré tous ces écarts, il ne fallait pas encore désespérer. Lorsque le cher petit bébé attendu serait au monde, tout irait beaucoup mieux. Sa présence retiendrait le père au logis et la jeune maman, revenue vive et bien portante, serait une compagne plus agréable pour son mari. Après avoir versé quelques larmes d'attendrissement sur son propre compte, Marguerite se rendit courageusement à la confection de ravissantes broderies destinées à la layette de l'héritier tant désiré. Vers le soir, un violent orage éclata et la pluie se mit à tomber par torrents. Oh mon Dieu! S'écria tout à coup Marguerite d'un air consterné. Max doit justement descendre du train en ce moment. Il n'a pas pris son caoutchouc. Il va se faire tremper. Or, préparons-lui toujours des vêtements de rechange. Où est son pyjama? Bon. Oh, il est mouillé aussi celui-là, mais qu'a-t-il pu faire ce matin? Oh, quel être désordonné que mon cher mari! Alors, je vais envoyer sécher tout ça à la cuisine. C'est encore heureux que j'ai pensé à m'en occuper. Et tout en monologuant, l'attentive ménagère inspectait le pyjama dans tous les sens. Un papier tomba soudain de la poche intérieure. Marguerite le prit et machinalement le parcourut des yeux. C'était une lettre de Rémy à Max, lettre datant de quelques jours. Voilà si ce qu'elle contenait. Mon vieux, je t'écris à la hâte un mot pour te parler de Léa. La pauvre petite a de grands ennuis. Elle n'a pas payé sa chambre depuis 2 mois, car elle a été malade et n'a rien gagné pendant quelque temps. On parle de l'expulser de son domicile en gardant ses vêtements en gage. Qu'est-ce qu'il attend? La rue? Je ne peux rien pour elle, hélas. Tu connais ma propre situation. Je pensais à toi en me disant que tu m'en voudrais peut-être de ne pas t'avoir prévenu. Vois ce que tu peux faire et hâte-toi. Il y a urgence. Bien à toi, Rémi. La jeune femme atterrée s'assit ou plutôt s'écroula sur un fauteuil, les jambes coupées. Que signifiait cette lettre? Léa, mais qui était cette Léa? Une femme pour qui Boileger demandait de l'argent à Max. Brusquement, un rapprochement se fit dans son esprit. La lettre datait de 8 jours. Et justement, 7 ou 8 jours auparavant, Max lui avait emprunté 200 francs sur l'argent destiné à la maison, sous le prétexte de régler une dette de jeu. C'était un mensonge. Cette somme était pour mademoiselle Léa. Max lui avait menti. Max lui mentait. dans son désarroi, cette pensée lancinante dominait toutes les autres. Max lui mentait. Et depuis quand? Mais depuis toujours, parbleu. Quelle horrible désillusion! Quelle amertume! Marguerite resta à la même place, hébétée, accablée. Tout à coup, la voix de Max, éclatant en tempête dans le vestibule, la tira de son torpeur. « Mon veston, mes pantoufles !» vociférait le jeune homme d'un ton aigre. « On pourrait donc pas préparer tout ça d'avance. On ne pense à rien ici. Mais vous voyez bien que je suis trempé. » Marguerite fit un violent effort sur elle-même, cacha précipitamment la malencontreux papier dans son corsage et remit à la femme de chambre les objets réclamés par Max. Mais quand celui-ci entra dans la chambre de sa femme, il fut frappé de son visage bouleversé, complètement décoloré. « Mais qu'est-ce que tu as encore ? » s'écria-t-il avec impatience. « En voilà une mine !» « Oh, tu as fait sans doute des imprudences !»« Oh, je n'ai rien, Max, » répondit doucement la jeune femme. « La rage m'a seulement un peu énervé. Je vais me coucher, ce sera passé demain. » Et à partir de ce jour, Marguerite s'enferma dans un silence fier et dans une froideur digne dont elle ne se départit plus. Elle remplissait scrupuleusement tous ses devoirs. Elle restait affable et d'une parfaite égalité d'humeur. Mais elle n'eut plus pour son mari les câlineries et les tendresses qui font pourtant la douceur de la vie à deux. Chapitre 12. L'exploitation des mines de L n'avait pas encore donné, on s'en doute, les brillants résultats que le prospectus faisait prévoir comme tout proche. Aussi la réunion des actionnaires, que Rémy Boisléger avait été contraint de convoquer au siège social rue Saint-Marc, fut-elle extrêmement orageuse. Boisléger avait déjà compris que l'aventure se gâtait et, préparé aux plus fâcheuses éventualités, il avait pris ses mesures en conséquence. La réunion des actionnaires s'était terminée à 11 h. À 12h35, M. Boisléger montait à la gare du Nord dans le train de Bruxelles. Et en prenant ainsi la fuite, Rémy laissait le malheureux Max seul aux prises avec les pires difficultés. Oh, cette pensée ne l'arrêta pas. « Bon, sa femme paiera, se dit-il en matière d'excuses, et tout s'arrangera. » Le soir même, sur la plainte d'un actionnaire, le parquet perquisitionnait dans les locaux des mines de L. La comptabilité était extrêmement vague, aussi vague que la mine. Naturellement, quand le commissaire aux délégations judiciaires, chargé d'arrêter Boisléger, se présenta au domicile du dit Boisléger, il trouva l'oiseau envolé. Max avait passé chez son ami 1 heure avant la visite judiciaire. S'il y était venu après, il aurait été informé par la concierge de ce qui s'était passé, et cela lui aurait peut-être inspiré des craintes sur son propre sort. Mais, tout en restant dans l'ignorance, le jeune homme n'était pas sans inquiétude. En effet, l'attitude des actionnaires à l'assemblée du matin l'avait plus éclairé en une lueur sur la situation de la mine et les responsabilités qu'il avait assumées dans l'affaire, sans s'en douter, que toutes les explications dont Rémy l'avait gratifié depuis 1 an. Aussi bien, c'était pour avoir des éclaircissements complémentaires qu'il s'était mis immédiatement à la recherche de Boisléger. Peine perdue, recherche inutile. Rémy était introuvable. On n'avait vu ni chez lui, ni au cercle, ni au café. Énervé, éreinté, de plus en plus inquiet, Max dîne à un seul restaurant où Rémi prenait d'ordinaire ses repas et où, bien entendu, il ne parut pas ce soir-là. À force de se creuser la tête, le jeune homme eut une inspiration. « Je parie, se dit-il, que l'animal a tout simplement dîné avec Léa et passé tranquillement sa soirée au café-concert. Oh, si j'allais m'en assurer !» Et sans réfléchir davantage, Max sauta dans un taxi et se fit conduire au coin de la rue Poissonnière. Il était 9h30 quand il arriva. Après avoir fait le tour de la salle en cherchant des yeux son ami, il choisit une place assez en vue, s'assit, commanda une consommation et regarda la scène. Soudain, des applaudissements éclatèrent. Max leva la tête. Miss Perret entrait en scène. La jeune femme donnait l'impression d'une de ces poupées anglaises caricaturant singulière des bébés britanniques à la silhouette si amusante. C'était donc bien Léa, cette femme fardée, effrontée, qui de sa belle voix grave lançait sur cette estrade des couplets équivoques. La chanteuse avait d'ailleurs un vif succès, ce qui ne semblait ni l'embarrasser ni lui déplaire. Max sentit une brûlante rougeur lui monter au front. C'était donc celle-là qu'il avait tant aimée, celle qu'il croyait ne pouvoir jamais chasser de son cœur, celle dont le souvenir lui avait fait méconnaître et désémisser sa femme. Oh, quelle folie! Non, non, il n'aimait pas Miss Perrette. Il avait aimé une Léa créée par son imagination, mais celle-là était morte. Il était donc libre, libre! Et il aimait sa femme, sa douce et tendre et sage Marguerite, son époux chéri, au cœur pur, au dévouement inlassable, qui était sienne pour toujours, qui lui avait tout donné, sa fortune, son amour, sa vie, et qui allait être le maire de son enfant. Quel misérable fou il avait été! Mais avec quelle joie il serait maintenant raisonnable! Vite, vite, il allait se jeter aux pieds de sa bien-aimée, pour se confesser, lui ouvrir son cœur, lui demander pardon. Le pauvre garçon croyait sortir d'un cauchemar. Il éprouvait un véritable sentiment de délivrance et ne pensait plus qu'à Marguerite. Mais le numéro était fini et la chanteuse, en se rentrant et attirant, répondait par un gracieux sourire aux applaudissements de ses admirateurs. Max, absorbé par son idée, s'était levé machinalement. Il n'entendait plus rien. Mais au moment de partir, son regard croisa celui de Léa. Celle-ci le reconnut et lui fit un petit signe amical. Brusquement rappelé à la réalité, le jeune homme hésita. « Bon, se dit-il, elle m'a vu. Je ne peux pas m'en aller sans lui parler. Pourquoi la chagriner? Et puis, il me faut des nouvelles de Rémi. » 5 minutes plus tard, Max Duplan était introduit dans la loge de l'artiste. « Max, est-ce bien vous ?» s'écria Léa sans émotion apparente. « En voilà une surprise. Mais pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir ? Moi qui étais si bien convaincu que vous étiez mon ami. Mais je le suis, ma chère Léa. Je ne vous oublie pas. Mais vous le savez peut-être, je suis resté longtemps absent. Oui, oui, je sais. Moi, j'ai mal dit de ça. Un chic voyage de noces, hein ? Et avec une femme épatante, paraît-il. Vous en êtes un vénard. Certainement, répondit le jeune homme. Choqué de cette désinvolture. « Mais vous-même, mon ami, Vous paraissez satisfaite de votre situation. Oh, il y a de bons moments, il y en a aussi de mauvais. Pour l'instant, je me tire d'affaire. Ah, dit simplement Max, étonné, car ceci cadrait mal avec les rapports de voix léger. Et après une seconde de silence, oh, croyez bien, ma chère amie, ajouta-t-il, que je me réjouis très sincèrement que vous soyez satisfaite. Mais vous avez sans doute besoin d'aller vous reposer, je ne veux pas vous retarder. J'étais venu seulement vous demander si vous aviez vu aujourd'hui notre ami Rémi. Bois léger, oh, mais il y a une éternité que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Oh, ce n'est pas une perte, il est toujours dans une de ses purées. Du reste, vous devez en savoir quelque chose. Il doit vous taper souvent. Mais non, balbutia le pauvre garçon, abasourdi de la tournure imprévue que prenait l'entretien. Je croyais au contraire que Rémi vous voyait souvent, vous. Il n'osa pas ajouter, vous apportez de l'argent. Car un affreux soupçon le torturait depuis une minute, le désorientant complètement. La jeune femme, devinant peut-être la raison de son embarras, le regarda longuement et une lueur d'attendrissement passa dans ses beaux yeux sombres. Mon cher Max, reprit-elle avec douceur, comme vous avez été bon et secourable pour moi autrefois, je ne vous en ai pas assez remercié. Je ne me rendais pas compte de ce que vous valiez. Maintenant, je connais mieux la vie et je vous rends justice dans mon cœur. Je ne retrouverai jamais un autre Max sur ma route. Merci de ces bonnes paroles. Moi aussi, Léa, je vous aimais bien. Je le sais. Aussi, je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui, avant que nous nous séparions pour toujours. Oui, pour toujours, affirma Léa sur un signe de protestation de Max. Nos existences sont trop différentes. Il est inutile que nous continuions à nous voir. Donc, mon ami, je voulais vous dire ceci. Oubliez-moi. Si jusqu'ici vous avez gardé le souvenir de votre petit ami d'autrefois, à partir de ce soir, il faut le chasser de votre cœur. Vous êtes marié, vous avez une femme charmante, soyez heureux. Vous avez fait pour moi tout ce que vous pouviez. Merci. Désormais, vous ne pouvez plus rien. Pensez que je suis morte. Et permettez-moi maintenant de vous donner un conseil. Méfiez-vous de Boisléger. Cet homme a une vilaine âme que vous ne soupçonniez pas. Mais vous, si loyal, si confiant, Rémi ne peut que vous donner de mauvais conseils, de mauvais exemples. Méfiez-vous, méfiez-vous. À présent, allez-vous-en, Max. Je dois reparaître en scène dans une minute. Adieu, mon ami. Le jeune homme, incapable de prononcer un mot, se laissa mettre à la porte sans résistance. Le lendemain matin, Max procédait à sa toilette lorsqu'il entendit le bruit d'une discussion entre la femme de chambre et deux inconnus qui se tenaient dans le vestibule. Il intervint. Que désirez-vous, messieurs? Monsieur Max Duplan, c'est moi. Fort bien, je vous arrête. Vous m'arrêtez, moi? Oui, voici le mandat d'amener. Je pense que vous nous suivrez sans opposer de résistance. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Arrêtez, monsieur! S'écria la femme de chambre avec horreur. Mais madame, qui est déjà si souffrante, va en mourir! Ces paroles rappelèrent Max au sentiment de ses responsabilités. Il devait prévenir sa femme aussi doucement que possible, en lui apportant, hélas, un affreux chagrin, au lieu des mots d'amour dont son cœur était plein. Monsieur, dit-il au commissaire, je n'ai aucun désir de m'enfuir. Je vous suivrai très docilement, vous pouvez être tranquille. Seulement, je vous demande de m'accorder un quart d'heure de grâce. Ma femme est malade, une émotion trop brusque peut la tuer. Laissez-moi le temps de la préparer. Le commissaire réfléchit quelques secondes. Soit, dit-il enfin, je vous accorde ce délai. Allez. Merci. Vous êtes un homme de cœur. Max monta lentement l'escalier et entra doucement dans la chambre de Marguerite. Celle-ci, encore couchée, était assise sur son lit, les yeux pleins d'inquiétude. Elle avait entendu le bruit des voix et reconnu celle de son mari. Mais qu'y a-t-il, mon ami? Demanda-t-elle, le cœur serré d'angoisse, en apercevant la mine défaite du jeune homme. Voilà 3 fois que je sonne et personne ne répond. Qui est en bas? Boum, mâchonna-t-il. Ce sont des gens qui viennent sans doute me rendre un grand sacrifice, Marguerite. Ce grand sacrifice, celui de te débarrasser de moi. La jeune femme ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put articuler un mot. Mais oui, ma pauvre femme, tu vas être bien tranquille, poursuivit Max. On vient pour m'arrêter. Une plainte a sans doute été portée contre moi à propos de cette affaire de mine dans laquelle j'ai sottement engagé ma responsabilité. Je pense d'ailleurs que je n'aurai pas de peine à démontrer ma bonne foi et à éviter l'accusation d'escroquerie. En tout cas, comme nous sommes mariés sous le régime total, la fortune ne peut pas être compromise dans la catastrophe. Tu n'as aucune inquiétude à avoir sur ce point. Mais Max, Max, balbutia enfin la jeune femme qui suffoquait. Arrête-toi, arrête! Mais pourquoi t'arrêter? Pourquoi? Tu n'as pas touché un sou de cet argent qu'on t'accuse d'avoir détourné. Au contraire, tu en as toujours donné. Que veux-tu, ma chère amie? Des fonds ont été versés qui se sont avant évaporés. Je ne sais trop comment, par exemple, mais je suis responsable tout de même, et comme je ne peux pas désintéresser le plaignant, ou m'emprisonne, bon, c'est assez logique. Mais je ne veux pas, c'est impossible, je ne veux pas que tu sois déshonoré. Je suis riche, moi, je paierai. Tout ce que j'ai est à toi. Mais tu le sais. Mais tu oublies, ma chérie, que nous ne pouvons pas toucher à tes capitaux. Or, il ne s'agit pas de quelques billets de 1 000 francs qu'il pourrait fournir à la rigueur, mais de 200 000 francs au moins. Si je m'en rapporte aux chiffres qui ont été discutés à la réunion d'hier. Du reste, il serait tout à fait injuste que tu payes mes imprudences. Non, non, je subirai mon sort. Mais tu déraisonnes, Max. Je trouverai de l'argent n'importe comment, mais tu n'iras pas en prison. Non, je ne veux pas. Je me mets en campagne tout de suite. Je vais me lever. Donne-moi ma robe. Max avança vivement vers le lit, prit sa femme dans ses bras et l'embrassa tendrement. Marguerite, tu es un ange, murmura-t-il, attendri jusqu'aux larmes. Mais hélas, tu ne peux rien pour moi en ce moment. Je dois suivre immédiatement ceux qui sont venus pour m'arrêter. Le court répit qu'on m'avait accordé est écoulé. Laisse-moi partir. Sois courageuse. Pense à notre enfant. Ménage-toi pour l'amour de lui. Adieu, ma femme chérie. Chapitre 13. Depuis 3 jours qu'il était en prison, Max n'avait reçu de sa femme qu'un mot très bref, lui disant qu'elle était toujours souffrante et qu'elle ne pourrait pas venir le voir tout de suite. Cette séparation brutale le torturait plus que tout. Son impuissance à épargner de telles douleurs à celle qu'il aimait le mettait hors de lui. Il se serait frappé la tête aux murailles dans de vraies crises de désespoir. Avant de commencer ses démarches, Madame Duplan voulut consulter son oncle, le colonel Verdier, en qui elle avait une grande confiance. Le brave homme fut atterré. Malheureusement, il ne pouvait pas personnellement venir en aide à ce pauvre enfant, puisqu'il ne possédait aucune fortune et vivait uniquement de sa retraite. Mais il se mit entièrement à sa disposition pour faire toutes les corvées nécessaires. Marguerite exprima le désir de désintéresser immédiatement le plaignant pour faire remettre son mari en liberté. Le colonel, qui connaissait exactement les conditions de son contrat, lui démontra l'impossibilité absolue où elle se trouvait de toucher à son capital. « Oh, si Max m'avait écouté, gémissait l'épouse éplorée, nous n'aurions pas fait ce contrat stupide. On ne regrette pas trop qu'il ait été fait, ce contrat. Pour les enfants, il vaut mieux que la fortune soit sauvegardée. Mais voyons, tu n'as pas quelques économies. » « Ben non, rien du tout. Nous avons tout dépensé pendant notre voyage en Italie. » « Tant pis, ma chère enfant. Car si tu avais pu réunir 20 000 francs, tu les aurais offerts comme caution. Et il est probable qu'avec cette garantie, tu aurais pu obtenir la mise en liberté provisoire de ton mari. »
« Vous croyez, mon oncle ? Oh, si j'en étais sûr. Mais où trouver 20 000 francs ?
Tu n'as personne qui puisse te les prêter ?
Si, ma belle-mère.
Oh, cette démarche me coûtera beaucoup, mais enfin, Max est son fils, c'est à elle de nous aider. J'y vais ce soir même, il n'y a pas de temps à perdre. » Décidé à faire le soir même sa pénible démarche auprès de sa belle-mère, la jeune femme renonça à aller voir son mari ce jour-là, comme on en avait d'abord l'intention. Elle jugea qu'il était préférable de ne le voir que le lendemain et de pouvoir lui apporter en même temps une bonne nouvelle. Elle reprit donc immédiatement le train pour Versailles et arriva au Buisson vers 5 heures. Là, elle trouva Madame de Prévillac pâle, sombre et plus revêche que jamais. Lucien avait eu une terrible crise pendant la nuit. Le médecin, appelé Rath, avait découvert de nouveaux abcès et décidé de faire une ponction sans retard. Le petit malade avait subi dans la matinée la douloureuse opération. Maintenant, il reposait. « Ma mère, dit tristement Marguerite après avoir écouté le récit que lui fit la baronne, je suis désolé d'avoir ajouté encore un souci à la grande peine que vous éprouvez déjà. » Mais les circonstances ne me permettent pas d'attendre. Alors, qu'y a-t-il ? Demanda Madame Prévillac, étonnée de ce préambule. Quelque chose de grave, si j'en juge par votre mine.
Oui, de très grave. Je viens vous demander un service, un très grand service. Vous serait-il possible de nous prêter, avec ma garantie, la somme de 20 000 francs ?
« Oh, 20 000 francs ! Oh, c'est une question d'argent ! Mon fils a encore fait quelques sottises ! Oh, c'est ça qui ne m'étonne pas !» Marguerite rougit et protesta vivement.
« Non, madame, non, 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 Max n'a rien fait de mal. Mais il s'est laissé entraîner par ce misérable bois léger dans une affaire louche. Et Max, qui est la droiture même, n'a rien soupçonné. » Et aujourd'hui, il se trouve compromis sans trop savoir comment.
Ah, vraiment, quelle jolie histoire! L'innocent Max candide comme un enfant qui ne voit rien, qui ne sait rien, et que l'on accuse injustement.
Comme c'est vraisemblable, mais je voudrais entendre l'autre son de cloche pour me faire une opinion. Enfin, qu'est-ce au juste? Bien, je vous l'ai dit, Max est compromis et on est venu l'arrêter. L'arrêter? Vous venez de m'affirmer son innocence. Je suppose cependant que si le juge d'instruction l'avait considéré comme innocent, il l'aurait regardé à deux fois avant de le faire incarcérer. Mais madame, vous n'allez pas accuser votre fils d'être un voleur, je pense, s'écria Marguerite d'un ton indigné. Mais je n'accuse pas, je constate. Max a toujours eu la plus déplorable conduite. Il a gaspillé sa fortune d'une façon absurde. Rien ne m'étonne de lui. Mais ce n'est pas vrai, madame. Mon mari n'est pas coupable, je l'affirme, j'en suis sûre. Et je veux le sauver. Ma chère amie, votre mari est mon fils et je le connais depuis plus longtemps que vous. Encore une fois, ce qui arrive ne me surprend nullement. Tirez de là, si vous voulez, mais il aura bientôt fait de se mettre dans le même cas. Mais enfin, Max a mangé sa fortune, c'est possible, mais il n'a jamais rien fait de malhonnête. À vous trouver. Mais pas que je sache toujours. Comment, vous ne savez pas? Alors vous estimez que la conduite de Max envers vous est honorable. Mais d'abord, il vous a épousé pour se retirer d'une situation analogue à celle où il se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas déjà très propre. Ensuite, il vous a délaissé odieusement pour courir dans les lieux de plaisir et gaspiller votre argent avec de mauvais sujets de son genre. Et pour comble, enfin, il se compromet maintenant dans une affaire louche et agit de telle sorte que la justice est obligée de le faire mettre en prison. Allons donc, si tout cela ne vous suffit pas, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Marguerite avait écouté ce violent réquisitoire avec horreur, accablée, anéantie. La baronne savait ce qu'elle faisait en frappant sans merci à l'endroit sensible, heureuse qu'elle était de torturer la pauvre jeune femme qui avait à ses yeux le double tort d'aimer Max et d'être aimée de Lucien. Et elle continua implacable. Oui, vraiment, il ne manque pas de toupet, mon fils. Alors il vous envoie pour une demander de l'argent. Ah oui, 20 000 francs. Mais il me connaît pourtant et se doute de ma réponse. Je ne change pas d'avis comme ça. Sachez-le, avant de se décider à vous épouser, Max avait déjà tenté la chance auprès de moi. Maman, avait-il gémi, prêtez-moi 10 000 francs. Oh, c'était 10 000 francs seulement dans ce temps-là. Vous me sauverez, je vous promets de vous les rendre. Eh bien, j'ai refusé les 10 000 francs, comme je refuse aujourd'hui les 20 000. Mon fils aîné a eu une part assez belle. Ce que je possède appartient à mes autres enfants. Ce n'est que justice. Puis, je vous le répète, ce serait en pure perte que je viendrais à son secours. Max est incorrigible. Marguerite fit un effort violent pour se ressaisir et se leva. Elle tremblait de tous ses membres et ses pauvres yeux désespérés auraient attendri un tigre. Madame, dit-elle enfin, je pense que vous êtes satisfaite. Depuis longtemps, vous désiriez me dire tout ce que je viens d'entendre. Vous dormirez désormais plus tranquille. Vous avez toujours haï votre fils. Il était donc impossible que vous m'aimiez, moi. Vous auriez pu avoir égard à ma situation et à ma douleur, mais vous n'avez pas eu pitié. Je vous pardonne cependant, car je sais que vous êtes bien malheureuse. Et je dois ajouter que sur un point, vous vous trompez. Mon mari ignore la démarche que je fais en ce moment. Je m'arrangerai même pour qu'il l'ignore toujours, ou du moins le plus longtemps possible. Naturellement, après ce qui vient de se passer, non seulement je ne vous demande plus rien, mais si vous m'offriez maintenant votre aide, je ne l'accepterais même pas. En dépit de votre opinion, je fais encore crédit à mon mari, au père de mon enfant. Je le sauverai seul si mes sacrifices sont inutiles, je ne les regretterai jamais. J'aurai fait mon devoir. Adieu, madame. Je prie Dieu de ne pas vous faire regretter trop cruellement votre attitude présente. » Les deux femmes se trouvaient en ce moment dans la chambre de la baronne, qui communiquait directement avec celle où reposait Lucien. La porte était entrebâillée, et le bruit de la discussion finit par réveiller le petit malade, qui se mit à crier « Marguerite ! Marguerite, c'est vous ! J'ai reconnu votre voix ! Venez vite m'embrasser !» La jeune femme hésita, puis sa générosité l'emporta. Elle entra dans la chambre voisine, et tombant à genoux auprès du lit, elle couvrit de baisers et de larmes le visage pâle de son petit ami. « Vous voilà donc ! Oh, quel bonheur !» murmura l'enfant en rendant les caresses. « Vous n'êtes plus malade, dites ? Vous allez revenir souvent ? Oh, je suis si triste sans vous ! Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous pleurez ? Pourquoi ? C'est parce que je suis plus souffrant, non ? Mais qu'avez-vous ? Mais qu'avez-vous ? On vous a fait de la peine ? Mais j'entendais la voix fâchée de maman tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Marguerite, ma chérie, répondez-moi. Je ne veux pas vous voir pleurer ainsi. » Mais Marguerite, qui s'était si péniblement contenue pendant la scène avec madame de Vrézillac, sentit en face de l'émotion et de la tendresse du Lucien toute son énergie l'abandonner. Elle dut faire un violent effort pour se ressaisir. Elle se leva en essuyant ses yeux et, inventant un pieux mensonge pour rassurer l'enfant, elle murmura d'une voix calme, « Oh, je suis très nerveuse en ce moment, mon chéri. En vous voyant couché si pâle, j'ai eu l'impression pénible. Je venais vous embrasser et vous recommander de ne pas vous tourmenter à mon sujet. Et pendant quelque temps, je ne pourrai pas revenir, car le médecin m'ordonne de me reposer et m'interdit d'aller en voiture. Encore un médecin qui invente quelque chose pour me martyriser, balbutia l'enfant. Mais je veux vous voir, je m'ennuie tant. D'abord, il y aurait un moyen bien simple. Je vais le dire à maman. Vous n'avez qu'à rester ici. Vous voulez bien, n'est-ce pas ? La jeune femme eut un sourire amer. « Oui, mon Lucien, soyez raisonnable, répondit-elle. Et Max, que dirait-il ? Dans un mois, vous irez bien, vous viendrez me voir à Marly. Et vous verrez en même temps votre petit-neveu, car ce sera un fils, le bébé que j'attends. Je l'appellerai Lucien, comme vous. C'est vous qui serez le parrain. Et quand vous serez tout à fait guéri, nous ferons un beau baptême. C'est vrai ? C'est moi qui serai le parrain ? Oh, Marguerite, comme vous êtes bonne ! Vous m'avez jamais dit cela, que je suis heureux. Mais guérirai-je ? Mais oui, oui, vous guérirez, il n'y a pas de doute. Alors embrassez-moi et laissez-moi partir. Adieu, mon cher petit frère. Au revoir, au revoir, vous m'écrirez. Oui, je vous le promets.